Non, on veut remercier la montre Seigneur Jésus-Christ encore pour cette grâce qui m'a accordé de venir partager le message avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une grâce. Gloire à Dieu pour cela. Et on va prier pour que le Saint-Esprit nous conduise, qu'il soit au contrôle, qu'il prenne le règne de cette rencontre, comme l'a dit, comme le fait déjà, il y a aussi ce message que c'est lui qui parle et que c'est lui qui révèle en fait ce que Jésus-Christ a pour nous ce soir. Saint-Esprit, nous t'invitons, viens prendre contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je ne connais pas. S'il te plaît, remplis-moi. S'il te plaît, parle à travers ma bouche, Seigneur. Remplis mes pensées de Christ. Ma prière, Seigneur, c'est que Christ a prévu pour ce soir. Les paroles de Christ soient relâchées dans le nom puissant de Jésus. Qu'est-ce que les cœurs sont disposés pour les écouter dans le nom de Jésus? Que ça produise des fruits et des fruits qu'Athènes nous appelle à produire. Des fruits. Nous plaidons cette rencontre dans le sang de Jésus. Que les murs de feu nous entourent, Seigneur. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. On a prié. Amen.
Amen.
OK. Donc, pour aujourd'hui, là, ce que le Seigneur a mis à cœur pour nous partager, c'est sur comment être successful. Comment vivre une vie de succès. Comment vivre dans le succès. Comment on peut entrer dans ce succès que Dieu a préparé pour ses enfants. Et quand je parle de succès, c'est bien qu'il y ait un repère par rapport à ce succès. Je ne parle pas trop du succès du monde. Je parle du succès qui est relié à l'appel que Dieu a pour nous. Ça va un peu dans ce sens. Parce que c'est le succès du monde, dans le plan du monde, ce succès dans le plan de l'ennemi. On peut appeler ça comme succès, mais il y a vraiment le succès que Dieu a prévu pour nous. Et c'est ça, en fait, sur lequel on doit se référer. Le succès de Dieu, le succès venant de Dieu. Donc, comment vivre dans cela? Comment marcher dans cela? Comment être conduit dans ce succès? Parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde désire. Que ce soit dès le bas âge, ce que les parents désirent pour les enfants sur le marché du succès, c'est d'être, avoir une vie qui a été réussie, comment marcher la réussite dès le bas âge. Quand on voit les enfants à l'école, ils font les tests, mais après l'école, ils partent à l'université, ils font les tests. Après, ils cherchent à avoir une vie réussie, ils cherchent à avoir une vie de succès. Après, peut-être qu'ils se marient, bien peut-être qu'ils ont des enfants, ou bien après, ils cherchent le travail. En fait, c'est ce succès, en fait, que beaucoup cherchent, beaucoup de gens, pour ne pas du tout le moins, aspirent, en fait, à ce succès. Mais souvent, les gens ont différentes visions du succès, différentes manières de voir ce succès, mais ils courent après quelque chose. Beaucoup courent après quelque chose. Donc, comment donc vivre dans ce succès? Comment marcher dans ce succès? Parce qu'en fait, le monde va nous montrer le chemin pour ce succès. Le monde va essayer de définir, de peindre un tableau qui va définir comment le succès est. Et on va nous donner certaines directions pour marcher et pouvoir arriver dans ce succès. Vous allez voir, il y a beaucoup qui vont essayer de donner des conseils. Il y aura des coachs qui vont essayer de coacher les autres pour leur montrer comment être, avoir une vie qui est dans le succès. Comment avoir une vie qui est réussie. Et c'est dans plusieurs domaines. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine de la médecine. Vous allez voir souvent, il y a un coach, il y a un mentor qui connaît, qui pense être arrivé, à fois sa connaissance intellectuelle, va chercher à guider ceux qui sont en train de venir pour leur montrer en fait. Voici les étapes, voici comment il faut faire pour arriver où je suis. Il va les guider, les mentors, va donner les directions. Et ça, c'est sur les cas pratiques d'une personne qui est dans cela. Il y aura d'autres, en fait, ils vont écrire des livres. Ils vont faire des recherches, ils vont écrire des livres. En fait, dans cette vie, après avoir fait 100 recherches, 1000 recherches des cas pratiques, voici ce que j'ai. Ils vont dire, voici ce qu'ils peuvent découvrir, voici les découvertes que j'ai faites, qui mènent à une vie de réussite. Il y a beaucoup de gens qui achètent ce livre sur le développement personnel. Comment avoir une mentalité, prendre des décisions qui nous conduit à une vie qui a été réussie. Donc, peut-être beaucoup d'entre nous ont acheté ce genre de livre. Comment faire pour réussir? 5 étapes pour réussir, 10 étapes pour réussir. Parce que beaucoup aspirent à cela. Donc l'homme va essayer, l'homme va essayer, à cause de cette demande, de créer des tools, des outils pour aider ceux qui cherchent cela, ceux qui cherchent à marcher dans cette direction, ceux qui cherchent à atteindre ce succès. Mais si on a vu le problème numéro un, c'est que le monde a une définition erronée du succès, une définition erronée d'une vie réussite. Et voilà, définition, si la définition déjà est mauvaise, si le target, si le, l'arrivée, l'objectif est déjà mauvais, n'apprend donc plus le chemin pour arriver, ça veut dire que c'est déjà mauvais. Et bien souvent, même quand on essaie, beaucoup vont essayer ce chemin, beaucoup vont essayer de lire ces livres, beaucoup vont essayer de voir ces vidéos. Voilà, notre génération, c'est plus ces vidéos. On va dire, quelles sont les étapes pour être, pour une vie réussie? Avant, c'était peut-être des livres. Avant, c'était peut-être que des conseils, mais ce sont plus des vidéos. Donc, le problème, c'est que ceux qui vont écouter ces vidéos, ceux qui vont lire ces livres, ceux qui vont recevoir ces conseils, si vous en êtes compte, la majorité de ceux qui le font ne réussissent pas. Mais ils essayent, peut-être pendant un mois, peut-être pendant deux mois, mais enfin, ils se rendent compte que ça ne marche pas. D'abord, beaucoup n'appliquent pas et ceux qui appliquent aussi ne voient pas un résultat immédiat. Donc, c'est souvent peut-être 10%, un pourcentage qui est vraiment petit, qui réussit à voir ce succès. Mais la majorité, généralement, malgré ses livres, ne voit pas ce succès. Ne voit pas, en fait, cette transformation dont ils cherchent. Et beaucoup abandonnent. Ils essaient encore, ça vous rappelle, les nouvelles années, quand certaines personnes prennent cette décision, cette année, ils vont essayer de perdre le poids, ils vont essayer de faire partir la gym et tout. Mais après quelques mois, ça ne passe pas. Et vous allez voir, dans le monde physique, nous sommes sur le monde physique, vous allez voir, il y a cette statistique. Vous savez que l'homme, ils ont fait des observations, ils ont remarqué que dans ce monde, en fait, que ce qui permet d'arriver à la réussite, que ce n'est pas, premièrement, basé sur l'intelligence, que ce n'est pas le IQ, le quotient intellectuel, qui est une cause directe de ceux qui arrivent à la réussite. Mais c'est plus basé sur le caractère. Ils ont ce qu'ils appellent en fait l'intelligence émotionnelle. Donc c'est plus sur le caractère, c'est-à-dire la conscience de toi, la maîtrise de soi, la motivation, les compétences sociales. Donc en fait, c'est qui est déjà en fait dans toi et qui commence à sortir. Donc, ce n'est pas plus sur ce qui vient de l'extérieur, mais c'est plus, en fait, dans ce caractère qui a été conçu petit à petit, qui était à nous, qui commence à grandir, qui est de l'intérieur. Que ça a plus une influence pour ceux qui vivent une vie réussite par rapport au quotient intellectuel. Donc, en fait, ça, c'est ce que le système du monde observe. Ah, c'est le système du monde, c'est qu'eux, ils observent et les conclusions de leurs recherches. Mais bien aimé, il y a un autre système, il y a un autre moyen qui ne fuit jamais et qui conduit les gens à la réussite. Une réussite de 100% avec même garantie. Mais souvent, les gens du monde donnent des garanties, c'est bien. Mais ici, ce n'est pas l'homme qui a la garantie. En fait, ce système, en fait, ça transforme de l'intérieur, ça transforme du dedans, ça ne transforme pas de l'extérieur. Ce n'est pas, en fait, les livres qu'on va lire, beaucoup de livres qu'on va lire, mais beaucoup de vidéos, mais des tests qu'on va faire. Ça commence de l'intérieur, ça affecte le caractère, le changement qui vient de l'intérieur. Ça commence, en fait, dans le cœur. La transformation commence dans le cœur. Et c'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. De la parole de Dieu a cette capacité de conduire ceux qui la consomment dans le succès. Et la garantie maintenant, ça ne vient pas des hommes. Parce que bien même, voyez, si un homme vous donne garantie, si c'est une personne, un ami qui ment beaucoup, vous allez vraiment douter de sa garantie. Vous n'allez même pas considérer cela. Et si c'est un ami qui, avec qui, peut-être qu'il est, vous connaissez cette personne, il est confiant. Mais vous voyez qu'il n'a pas le moyen. Même s'il est sûr, il n'a pas le moyen. Vous allez un peu douter de la personne. Donc, et là, si maintenant, c'est une compagnie, c'est-à-dire qu'ils font des business, ils vendent quelque chose. Et si ces gens-là vous donnent garantie, là, vous serez plus confortable de croire ce qu'ils vont vous dire parce que vous savez en fait que ces gens-là, ils ont en fait des moyens pour soutenir cette garantie. Que ce qu'ils disent là, en fait, ils peuvent le faire. Ça, c'est entre nous les hommes. Mais cette garantie maintenant du succès, ça ne vient pas des hommes. Ça vient maintenant de Dieu. C'est le Dieu tout-puissant. Celui qui a tout créé. Celui qui connaît tout. Celui qui connaît la fin avant le commencement. Lui connaît en fait la définition du succès. Pas le succès selon les hommes. Le succès selon lui, selon Dieu. Au-dessus de cela, il connaît aussi le chemin pour arriver dans ce succès, le chemin pour marquer dans ce succès. Avant même qu'on y arrive, il connaît déjà les pas, il connaît déjà la fin. Et ce qu'il dit, c'est qu'il connaît en fait le principe pour avoir une vie réussite. Il connaît en fait la direction, les pas pour être successful, pour être, vivre dans le succès. Il dit qu'il connaît cela. Qui connaît? Il donne sa garantie que si vous faites cela, que si on fait cela, on est sûr de marcher dans le succès. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas le côté intellectuel qu'on a beaucoup étudié, mais le caractère que c'est difficile de changer. En fait, il dit en fait que pour entrer dans cela, que c'est par sa parole. Comment ça passe sa parole? Comment ça passe sa parole? Qu'à travers cette parole, à travers cette parole, c'est comme un manuel de réussite. C'est un livre, en fait, cette Bible, cette parole, pour le conduire vers la réussite. Quel que soit le domaine. Vous voyez, Salomon dit un jour qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, quel que soit le domaine, que ce soit ceux qui font le business, il y a des gens dans la Bible dont Dieu a conduit pour qu'ils soient des grands businessmen. La preuve en est que l'un le plus riche au monde qui n'a jamais existé, c'est dans la Bible. Salomon, mais jusqu'à présent, il n'y a plus personne qui était plus riche que lui. Comme il a fait pour être riche. Donc, il y a des exemples. Il y a des moyens. Il y a des étapes, que ce soit dans le leadership, et des gens de la Bible que Dieu a touché, les a guidés, des exemples comme David, que ce soit dans l'entrepreneuriat, à des exemples, mais dans la gestion, comme Joseph. Donc ce succès dont on cherche, ce succès dont on désire, si on cherche... Ça, c'est vraiment à souligner. Si on cherche le succès du monde, ce n'est pas ça que la Bible nous conduit. Ce n'est pas ça que Dieu dit. Ça vient peut-être après. Ah, ce sont les suivis. Ah, c'est qui suit, c'est qui accompagne. Mais si on cherche le vrai succès selon Dieu, une vie réussie selon Dieu, c'est dans la Bible. C'est dans sa parole. Et bien souvent, on ne cherche pas ça. Bien souvent, on veut ce que les autres ont. Bien souvent, on veut le succès que nos amis nous ont dessiné devant nous. Bien souvent, on veut le succès que le monde a dessiné. Mais on ne veut pas le succès de Dieu. Donc, on demande déjà de renouveler notre pensée pour reconnaître le vrai succès, pour reconnaître le succès de Dieu. Elle nous demande de se séparer du succès du monde, de dire non au succès du monde, de plus s'attacher au succès du monde, mais de tourner notre cœur au succès de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a défini comme succès? Qu'est-ce qui est le succès selon ce que Dieu dit? Quelle est une vie réussite? Pas selon nos amis, mais selon Dieu. Quand on commence là, on ne va plus envier nos amis. On ne va plus envier nos prochains. On ne va plus envier nos anciens camarades avec qui on a gradué en même temps. On a peut-être gradué avant, après eux. On va commencer à faire des comparaisons qui sont inutiles. Quand on comprend cela, même au travail, il n'y aura plus de comparaison parce que ce n'est pas ça le succès que Dieu a défini pour notre vie. Ce n'est pas ça le succès selon Dieu. Mais quel est ce succès selon Dieu? C'est ça qu'on doit comprendre. Et c'est là où la parole de Dieu, la Bible, nous conduit. Parce que souvent, beaucoup lisent la parole de Dieu, lisent les directions, mais ils n'aiment pas cela. Ils réalisent que ça ne les amène pas au succès du monde. Ils ne sont pas intéressés. Mais ils viennent déjà avec une mauvaise compréhension du succès. Et là même, ils ne continuent pas. C'est comme une personne qui prend un taxi. Il ne sait pas, il dit qu'il va aller à la maison du président. Il va à la maison du président. Et dans sa tête, il pense que la maison du président, c'est à l'ouest. Il prend le taxi, il dit taxi, même la maison du président, le taxi part à l'est. Mais pendant ce parcours, il sera vraiment dérangé. Il va se poser des questions. Il va échanger avec le taxi au point même où il va sortir du taxi pour dire, mais en fait, tu m'amènes au mauvais endroit. J'ai dit la maison du président. Le taxi dit, oui, mais je connais l'endroit. Je suis un professionnel, je connais ce quartier, cette ville, ça fait 40 ans. Mes ancêtres étaient des taxis. Moi, je connais la maison du président, c'est à l'est. Mais vous dites, non. On m'a dit, mon ami m'a dit, mes parents m'ont dit que c'est à l'ouest. Donc, si on a déjà cette compréhension du succès, même si Dieu nous conduit, ça sera difficile d'y marcher. Parce qu'on ne veut pas cela, on veut quelque chose d'autre. Donc, examinons-nous, bien-aimés. C'est quoi le succès dans notre vie? Quel est ce succès dont on cherche? Quelle est cette réussite dont on cherche? Et que c'est pour être comme les autres? Est-ce que c'est pour avoir la voiture des autres? Et que c'est pour avoir la maison comme les autres? Et que c'est pour s'habiller plus que les autres? Et que c'est pour avoir un poste qui est élevé plus que les autres. Si c'est ça, c'est pas ça dont la parole de Dieu parle. Donc vous allez chercher la parole, ça sera difficile de trouver ça. Mais si c'est le succès que Dieu veut, où Dieu vous conduit, bien sûr que les autres choses vont vous accompagner. On va se focaliser sur son succès, ce qui est défini comme succès dans notre vie, pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, on doit commencer par ce changement de mentalité, par ce changement de vision que le monde a dessiné en nous pendant plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, des décennies. Ils ont fait comprendre les définitions du succès. Ça, c'est temps d'effacer cela. Et de donner la place à Dieu pour qu'il nous donne sa définition du succès. Dont il a dessiné même avant la création du monde. C'est ça qu'on a aspiré. Maintenant, quand c'est fait, comment maintenant entendre ce succès? Avec ce pas la parole de Dieu. Donc, on lit cette parole pour chercher ce que Dieu a pour nous, succès selon Dieu, une vie réussite selon Dieu, pas selon les hommes. Donc, les critères vont changer. Les idées maintenant vont changer. Il y a certaines idées qui vont venir. On a dit, mais comment appliquer cela? Ce n'est pas, les gens ne font pas comme ça. dans le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'on fait. Donc, il y a beaucoup qui négligent les idées divines parce qu'ils ont tout le système du monde. Ils réfléchissent toujours sur le système du monde. Ils prient pour quelque chose. Tu donnes une idée, mais ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Que dans le monde autour d'eux, on ne fait pas comme ça. Mais parce que ce n'est pas selon le système du monde. Ça me rappelait, je priais pour le Seigneur pour que maintenant c'était une stratégie pour évangéliser. Et j'avais une bonne stratégie en tête, selon le monde, et qui devait faire plaisir aux gens, et qui devait créer une atmosphère vraiment très très bonne. J'étais vraiment content par rapport à cette stratégie, j'étais sûr que non, ça c'est bon. Les gens aiment cela, les gens vont aimer. Et là donc, je prie. Puis juste pour confirmer au Seigneur, Seigneur, est-ce que c'est la bonne stratégie? C'est vraiment une très bonne idée. Le Seigneur dit non. Il dit, ah! Mais comment ça, non? Ah, c'est que les hommes aiment. Voilà, j'étais surpris. C'est plus tard maintenant, parce que souvent que le Seigneur nous dit non, souvent c'est bien de prendre le temps pour... N'est pas trop forcé et se mettre dans une position qui est neutre pour pouvoir recevoir ce qu'il va dire. Parce que quand on pousse trop, là, c'est difficile d'écouter maintenant parce qu'il y a notre propre pensée. Et prie un peu de temps et continue à chercher sa face pour une idée. Et dès qu'il m'a révélé, c'est ramené, je me suis rendu compte que waouh, c'est même plus efficace que l'idée d'avant. Tu as certaines idées qu'on a en tête, qui sont bien pour le monde, mais qu'on entre dans le système du monde, qu'on entre plutôt dans le système de Dieu, sans la Bible, on se rend compte que c'est différent. Et il peut toujours renouveler tes pensées. Il faut maintenant chercher à demander à Dieu, mais comment tu veux cette idée? Comment en fait appliquer cela? Quelle application de cela? Parce que ça vient du Seigneur. Et c'est souvent ce plan. Quelle est cette application? Quelle est cette application? Donc, ne négligeons pas souvent certaines idées que le Seigneur nous montre. Parce que ça conduit à sa réussite. Ça conduit à sa réussite. Donc, maintenant, on va voir un exemple de la Bible. Un exemple dans la Bible. Il y a une personne de la Bible, en fait. Lui, il devait conduire un peuple. Il devait conduire un peuple dans la réussite pour vivre une vie réussie à Canaan. Lui, il devait réussir. Il a eu une expérience avec son mentor. Il a eu une expérience avec son maître. Ça s'est bien passé. Il avait ses connaissances. Il avait ses expériences. Peut-être qu'il avait écrit dessus. Donc là, tout était déjà prêt. Et comme peut-être beaucoup d'entre nous, on est parti à l'école, on a fait des entraînements, des certificats, on a pris tout cela. Là maintenant, on a tout ce knowledge, on a toutes ces informations. Et maintenant, Dieu décide de visiter cette personne. Malgré tout l'expérience qu'il a, malgré tout l'enseignement qu'il a reçu de son mentor, Dieu décide de le visiter. Et Dieu maintenant lui donne une clé un peu pour réussir. Que dans cette situation, dans cette position, Dieu lui donne une clé pour marcher dans la réussite. Une clé peut-être que son mentor ne lui a pas donnée. Une clé qui va lui permettre de marcher dans sa mission et d'accomplir sa mission. Lisons Josué 1. Verset 8. Là, maintenant, Dieu parle à Josué. Dieu va nous révéler des secrets. Comment vivre une vie réussie, comment réussir dans la vie. Il dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Wow. Quand le monde physique m'a dit, mais comment ça? C'est en lisant ce livre qu'on va être, on va réussir dans les entreprises. Mais comment est-ce que c'est en lisant ça qu'on va réussir? Mais c'est ce que tu dis à Jésus que voici le secret. Le secret, en fait, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu, c'est ce livre. Que s'il veut réussir, il doit écouter la parole de Dieu. Bah, il doit écouter ce que Dieu dit. Vous voyez, quand les gens voient cela, ils peuvent dire que ça n'a pas de sens. Ils vont chercher à faire ce que les livres ont écrit. Ils vont chercher à faire ce que YouTube a dit. Ils vont chercher à faire ce que l'université a décidé. Et à la fin, ça nous renvoie à qui? C'est quoi la source? Ces informations, tout ça, ce sont des informations pour les amener au succès. À la fin, c'est l'information de qui? C'est l'information des hommes. Et si Dieu, il dit non, lis ce livre, il demande de faire quoi? De lire l'information, la parole qui vient de Dieu. Donc même si ça allait banal, la source de cela est une grande différence. Dieu est en train de dire, voici l'information qui vient de moi. Mais beaucoup de gens lisent cela pour chercher l'information qui vient des hommes. Mais qu'est-ce qui va mener au succès? C'est qui vient de Dieu, la parole de Dieu ou la parole des hommes. Parce que les choses de ce monde, les informations de ce monde, ça vient des hommes. Les stratégies des hommes, les techniques des hommes. Comparé aux techniques de Dieu. Donc en fait, c'est sous cet angle-là qu'on voit les choses. Voulons-nous des informations qui viennent de Dieu ou voulons-nous des informations qui viennent des hommes? Et si Dieu est en train de dire à Joshua, en fait, si tu veux réussir, ce livre de la loi, cette parole qui est écrite, c'est une parole que Dieu lui-même a écrite, qui vient de Dieu. Ces décrets, ces directions, ces directives que Dieu s'est assis pour proclamer, Dieu qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, Dieu qui est hors du temps, dans ces paroles qui sont hors du temps, Dieu dit à Josué, voilà la clé du succès. Il dit de ces paroles, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ne te loigne point de ta bouche. Donc, ne loigne pas ces paroles, ne loigne pas ce que j'ai dit, ne loigne pas cette source divine de ta bouche. Donc, au lieu de parler tout le temps des choses du monde, des paroles des hommes, parle de ces paroles, parle des paroles de Dieu. Parle des choses éternelles. Que sont les choses éternelles qui doivent sortir de la bouche? Pas des choses, des hommes qui partent, des idées qui partent comme ça. Donc, dis de ta bouche parce que ces paroles, elles doivent être méditées. Donc, ces paroles doivent être méditées, doivent te parler. Et de te proclamer. Il dit, médite le jour et nuit. Ce qu'il dit après est intéressant, il dit, pour agir fidèlement. En fait, pour agir dans les plans de Dieu, pour agir selon le dessein de Dieu, pour marcher dans la réussite que Dieu a prévu pour nous, dans le chemin qu'il a mis pour nous conduire dans cette réussite, c'est pas avec les pensées du monde. C'est pas avec les idées du monde. Les idées du monde ne peuvent pas nous amener dans la réussite, la vie réussite que Dieu a prévu pour nous. C'est impossible. Ce que les hommes ont fait, les idées, ne peuvent pas nous amener. Et tu peux être capable de marcher dans cela. Marcher fidèlement où il nous a appelés, dans notre réussite, pour vivre une vie réussite. Il dit, pour être capable de marcher dans cela, ce n'est pas en lisant les bulletins du travail. Ce n'est pas en lisant les journaux ou les livres comment réussir la vie. Oui, les livres financiers, comment bien investir. Il dit que ce n'est pas ça. Que pour marquer dans ce chemin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas envoyer les vidéos YouTube que les hommes, la mentalité des hommes, les yeux des hommes ont fait. Il dit non, pour marcher dans cela, il te faut des idées universelles, il te faut des idées qui viennent de lui, des idées éternelles. Il faut ses idées, il faut sa parole, que ça méditant sur sa parole, qu'on va pouvoir marcher dans cette vie réussite. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous équipe à marcher dans cela. Donc, bien aimé, dans votre vie, dans notre vie, pour ceux qui cherchons à vivre cette vie réussite, cette vie dans le succès, chacun d'entre nous, je pense, le veut. Donc, pour marcher dans cela, sans passer plus le temps dans les choses du monde, sans passer plus de temps dans les livres du monde, ici, Dieu est en train de nous dire, en fait, on a fait un petit changement et passer plus de temps dans sa parole. En passer plus de temps dans ce qu'il a dit. Et ça va nous permettre d'agir, de faire des actions fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Donc pour avoir ce succès, il faut être fidèle à la parole de Dieu. Quand on dit que pour être dernier, que tu veux être premier, il faut être dernier. Ce que la parole de Dieu dit. Le monde nous dit non. Mais ça, il ne faut pas être dernier. Il faut te promettre. Tu vas te promettre sur premier. Donc là, ce que le monde dit, ce que Dieu dit. Est-ce qu'on écoute ce que Dieu dit? Dieu dit que si tu veux être le maître, il faut être serviteur. Il faut servir. Si tu veux être grand, il faut être petit. Le monde dit, si tu veux être grand, deviens grand. Combat ceux qui sont devant toi. Et je dis, non, sois petit. Ça, c'est ce que Dieu dit. Donc, en étant fidèle à cela, fidèle à sa parole, comment pouvoir atteindre ce succès? Je dis, avec que si tu veux plus, il ne faut pas plus économiser. Ah. Je dis, ce n'est pas en économisant tout que tu auras beaucoup. Je dis, donne d'abord ma part et je vais t'aider maintenant à multiplier. Le monde dit, non. Il faut tout garder. En fait, il y a une contradiction. Le monde dit qu'il faut tout garder parce que maintenant, vous voyez, ce sont les hommes qui vont chercher de leurs propres forces à multiplier cela. Mais quand Dieu parle, en fait, ce n'est pas parce que ce qu'il dit a un sens. Et qu'il dit que c'est un sens par rapport aux humains. Parce que sur le plan des humains, peut-être ça n'a pas un sens. Mais qu'est-ce qui définit le vrai sens? C'est Dieu. Dans ce truc, lui, le repère. Mais ce qu'il veut dire, en fait, c'est ceci. C'est que quand Dieu parle, quand Dieu relâche une parole, c'est que lui, il s'engage dans cette parole. Donc, cette parole ne va pas seule. Cette parole n'agit pas seule. Quand cette parole est exécutée, quand cette parole est reçue avec foi, gardée, et quand il dit on agit fidèlement, quand on agit fidèlement à cette parole, en fait, ça engage Dieu. Maintenant, l'idée, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir. Qui est-ce qu'on veut faire confiance à nos finances? Est-ce que ce sont les hommes? Ou est-ce que c'est Dieu? Mais si c'est Dieu, on doit écouter ce que Dieu dit. Parce qu'en écoutant cela, on l'engage. Parce que c'est sa parole. Dieu dit qu'il n'est pas plus grand que sa parole. Donc lui, Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Parce que sa parole, c'est lui. Jean 1. Donc, dans cette parole-là, il y a la main de Dieu qui va agir. Mais dit à Josué, en fait, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, pour que Josué réussisse, pour que Josué entre dans son destin, marche dans sa route, vit une vie réussie, Dieu lui a dit, joue tes nuits. Ne médite pas les choses des hommes, ne médite pas les idées des hommes, ne médite pas les livres des hommes, médite ma parole, c'est tout. Et applique-la. Et le secret dans ce livre, c'est encore quoi? C'est que quand on le fait, on engage Dieu. On engage Dieu. Dieu est dans sa parole. Dieu cherche sa parole pour l'exécuter. Donc quand sa parole est relâchée, c'est qu'il exécute, c'est qu'il travaille. C'est sa parole. Donc si on veut engager Dieu dans nos choses, si on veut engager Dieu dans nos projets, si on veut engager Dieu dans nos entreprises, si on veut engager Dieu dans ce qu'on fait, mais où est sa parole? Est-ce que sa parole est dans ça? Est-ce que c'était une inspiration de sa parole qu'on lisait? Est-ce que ça découle de sa parole? Si c'est le cas, on l'engage et il est là. Donc, bien aimé, dans notre vie, pour marcher dans cette vie, réussite, le chemin dans cela, dans cette vie successful, c'est en appliquant la parole de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Jésus, c'est aussi ce qu'il nous dit ce soir. Que pour vivre dans cette vie réussite, ce n'est pas la chose du monde, c'est sa parole. C'est de réaliser comment Dieu fonctionne en fait. Dieu aime utiliser les hommes. Dieu n'agit pas seul. Dieu veut utiliser les hommes pour révéler sa gloire dans le monde. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous pour révéler sa gloire dans le monde. Une manière dont il le fait, c'est à travers sa parole. Mais quand nous exécutons sa parole, quand nous marchons dans sa parole, c'est une manière en fait d'inviter Dieu dans nos vies pour qu'il agisse. Donc peut-être, vous avez des idées, mais vous avez des plans. Bien, Dieu vous a mis quelque chose à cœur, de faire quelque chose. Mais le comment faire, vous ne connaissez pas. Les détails de comment faire, vous n'avez aucune idée. Donc, vous avez lu les choses du monde, regardé les choses à la télévision, c'est très bien. Mais ce soir, Seigneur nous encourage. Repartons dans sa parole, cherchez ces détails. Repartons dans sa parole, cherchez le comment. Repartons dans sa parole. Parce qu'il veut agir et ça traverse sa parole. Donc, c'est qu'il va nous donner un peu des idées, des directions, la sagesse. C'est sa parole. C'est en lisant sa parole. Pour réussir. Donc, avons-nous la parole de Dieu devant nous dans nos projets? Ça, c'est la question. Chacun d'entre nous, les projets qu'on en a, est-ce que la parole de Dieu y est? Et quelle est sa parole? Amen. Donc, la même manière, comme je disais tantôt, le livre nous des informations, la parole de Dieu nous aussi des informations, mais ces informations viennent de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce sont des réalités qui sont éternelles. Et c'est ce sur quoi Dieu veut qu'on opère. Vous voyez dans la Bible, la parole de Dieu est définie de plusieurs manières. Elle donne plusieurs descriptions de la parole de Dieu. Parce que quand Dieu dit à Jésus, médite sur cette parole, on va un peu voir qu'est-ce que cette parole fait en fait. Comment cette parole agit? Quel est le moyen? Quel est le mécanisme de la parole? Parce que souvent on dit parole, ça peut être un peu dans l'air. Mais quels sont certains exemples de la parole fonctionne? Ça va un peu nous permettre de voir la puissance de la parole. Dans Jérémie 23, verset 29, ça dit ceci. « Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. » La parole de Dieu, dès qu'elle est relâchée, peut venir sous plusieurs formes. Ça peut se manifester sous plusieurs formes. Une de ces formes, ça peut être un feu. Mais sa parole peut venir comme un feu qui consume, comme un feu qui brûle. Sa parole peut venir comme un marteau qui brise le roc, qui brise les rochers, qui détruit les choses qui ne sont pas de lui. Donc ça peut être comme une arme. Même comme le feu, souvent ça vient, ça brûle les choses. Vous avez vu, souvent vous écoutez une parole et vous savez que ça c'est comme ça vous touche. Comme vous sentez que la parole vous touche un peu. Souvent c'est là, c'est en train de consumer certaines choses. C'est en train de consumer de mauvaises idées. Ça consume des forteresses qui étaient là. La parole de Dieu. Souvent ça brise ses raisonnements, ça fait tomber ses raisonnements dont on avait avant. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace, elle est vivante, elle vit. Je veux que dans cette parole que je disais tantôt, il y a une capacité dans cela de réaliser ce pour quoi elle était envoyée. Elle ne revient pas sans réaliser la raison pour laquelle elle était relâchée. Donc dans cela, Dieu agit. La main de Dieu est dans sa parole. Donc elle vit. Donc Dieu ne demande pas de lire les choses que les hommes qui sont morts écrits. Parce que ceux qui écrivent, ce sont déjà partis. Mais il dit plutôt, lis les choses dont l'auteur vit, dont ces choses vivent, ces choses qui donnent la vie, ces choses qui sont vivantes, parce que la source, c'est Dieu. Car la parole est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à l'âme et l'esprit. Jusqu'à partager, séparer l'âme et l'esprit, jointe et molle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est tellement efficace qu'elle vient dans le cœur, qu'elle touche le cœur. Elle sépare. Ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Donc, en fait, elle discerne. Elle est capable de discerner, vous montrer ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Montrer sur le cœur qui ne sont pas de Dieu. Et si la parole, elle est comme une épée, pour qu'on puisse séparer, pour briser. C'est une manière de la parole agir. Dans un, on commençait à mettre la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole c'est Dieu. Jésus-Christ, la parole qui était faite chair. Cette parole qu'on lit, c'est elle est puissante. Dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Donc c'est une lumière, ça nous conduit, ça nous guide. Dans chaque pas qu'on fait devant nous, il y a cette lumière qui est devant nous pour nous éclairer, pour nous montrer où aller. Pour nous montrer comment marcher, quel est ce chemin qui nous mène dans notre destinée. La parole de Dieu demeure éternelle. Donc nous lisons les choses qui sont éternelles, les choses qui vivent. C'est là, c'est dans cela que Dieu veut qu'on se focalise, que Dieu veut qu'on médite. C'est ça. La parole aussi arrose. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. On a dit en haut, n'est-ce pas, qu'elle est quoi? Qu'elle est vivante, hébreu. Elle est vivante. La parole de Dieu est vivante. Et maintenant, dans Jean 6, ça dit l'esprit et vie. Et vie. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Ainsi en est-elle de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli ses desseins. Alléluia. Sans effet, et on a vu quoi? La parole de Dieu est efficace. Elle travaille et elle marche. Donc, bien-aimé, quand nous lisons la parole, voici comment elle opère. Elle est efficace. Elle va travailler en nous. Elle ne va pas retourner sans qu'elle soit exécutée. Et on va finir avec notre dernier verset. Thessaloniciens 2, verset 13 dit ceci. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Ils sont à se focaliser sur agir. Donc, bien aimé, la parole de Dieu agit. La parole de Dieu travaille. La parole de Dieu a un but. La parole de Dieu cherche à réaliser quelque chose. La parole de Dieu a un objectif. Elle travaille. Donc, quand nous lisons cette parole, pas juste lire, quand nous méditons sur cette parole, elle vit, elle est vivante, elle est éternelle. Donc, étant en nous, elle est en train de faire un travail. Étant en nous, elle est en train de travailler. Il y a un travail qui se fait. Donc, on peut rester sans parole et que tu ne peux rester sans la parole en lui. Donc, il y a quelque chose qui doit travailler. Il y a des paroles qui doivent être en train de travailler. Il y a des fruits qui doivent être en train d'être préparés. Des fruits de destinée, des fruits de la réussite. Donc, que ce soit dans différents domaines, si on veut réussir dans cela, dans notre appel, on doit avoir des paroles qui parlent de cela. Des paroles qui doivent être connectées à cela. En méditant dans cela, ça va produire des fruits, ça va travailler. Vous voyez ici, il y a certaines étapes. Paul dit que ces gens ont reçu la parole. D'en recevoir, il faut avoir écouté cette parole. Donc, cette parole doit être écoutée. À l'époque, souvent, ils avaient des lettres qu'ils envoyaient. Une personne lisait la lettre à tout le monde. C'est-à-dire que la congrégation, ceux qui étaient là, écoutaient en fait la lettre. Donc ici, soit lire, soit écouter. On doit lire, on va écouter la parole. La première étape. Et quand on l'écoute, on doit prendre une décision. Une décision qui s'impose. Chaque fois qu'on a la parole de Dieu. Est-ce qu'on l'accepte? Est-ce qu'on la dilue? De nos jours, beaucoup de personnes diluent la parole de Dieu. Parce que ça ne les arrange pas. Ça va contre ce que la culture dit. Ils vont prendre une partie, ils vont laisser une partie, ils vont diluer la parole de Dieu. Certaines personnes vont même refuser cette parole. Mais c'est intéressant parce que dans ce texte ici, il dit en fait que la parole dont ils ont reçu, qui n'ont pas vu cela comme la parole qui vient des hommes. Ils ont vu cela comme la parole qui vient de Dieu. Donc, quand on connaît la source de la parole, quand on sait que cette parole qu'on est en train de lire ne vient pas des hommes, mais que c'est Dieu qui a parlé, que c'est une parole universelle, c'est là souvent que ça peut agir comme une épée. Ça vient dans notre cœur pour en fait couper cette chose en nous qui refuse l'accepter. Ces choses en nous qui refusent cette parole. Ces choses en nous qui ont été instaurées par les normes et les idées de la culture. Qu'on essaie de l'accepter, bien que souvent c'est difficile, puisse s'installer, ça va venir comme une épée. Donc, il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte toute la parole ou on accepte une partie de la parole? Beaucoup de temps, la parole de Dieu ne travaille pas, mais elle travaille à moitié parce que mais la parole de Dieu n'accomplit pas son objectif parce que beaucoup, en fait, diluent cette parole et ne croient pas toute la parole, croient juste une partie. et laisse l'autre. Il y a des doctrines qui sont basées sur une partie de la parole et ils refusent l'autre partie de la parole. Ce qui fait que cette parole ne peut pas être complète en eux. Donc, après avoir accepté, on doit la recevoir et là, maintenant, peut travailler en nous. On doit la méditer. Beaucoup de personnes, en fait, lisent sa parole, mais ne méditent pas dessus. Quand on se rend compte qu'en fait, la parole qu'on est, c'est éternelle, il y a une méditation qu'on doit faire, une réflexion qu'on doit faire. Parce que quand on veut prendre, qu'on prend un fruit, et qu'on veut en fait avoir le jus de ce fruit, on doit la presser, on doit encore presser, on va encore presser, jusqu'à ce que tout le jus sort. Donc, quand on prend une parole, souvent il y a une idée qui vient, souvent rien ne vient. Mais quand on médite, c'est comme si on était de presser, et là, vous allez voir certaines révélations vont sortir, certaines directions vont sortir, certaines idées vont sortir, et par avoir commencé à travailler à nous. Donc, pour ce soir, ce n'est pas juste nous encourager à lire, c'est bien de lire, lire la première étape, recevoir, c'est bien de recevoir, c'est bien d'accepter, de dire oui, la parole de Dieu est vraie. Moi, on va encore aller en profondeur, nous allons aller en profondeur et méditer, prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Pour déguster cette parole. Parce que beaucoup peuvent lire la parole de Dieu juste par homework. Ils lisent rapidement et ils partent. Et qu'ils arrivent, 5 minutes après, ils ont oublié. Mais elle est partie. Est-ce qu'elle est encore là? On est libre pour la parole de Dieu en étant pressé. On ne va pas voir Dieu en étant pressé. Prenez votre temps. Puis c'est juste un verset. Dégustez ce verset. Dégustez la syllabe. Dégustez le mot. Parce que ce sont des choses universelles. Sa vie est éternelle. Donc, nous sommes encouragés à méditer sur la parole de Dieu. Parce qu'en méditant, elle va commencer à travailler en nous. Il y a maintenant cette source, cette semence éternelle qui va commencer à grandir et à apporter des fruits. Vous voyez bien, mais souvent beaucoup cherchent à changer les gens. Vous voyez, ils vont utiliser les systèmes du monde pour changer les gens. Mais une manière efficace pour transformer quelqu'un, ce n'est pas la parole de Dieu. Exposer la parole de Dieu à cette personne. Il suffit seulement qu'une semence tombe. Là, ça va produire le fruit. C'est bien, il faut prier, mais en exposant la parole de Dieu, ça porte une transformation. Amen. Donc, comme je disais tantôt, beaucoup ne voient pas les fruits parce que la parole ne demeure pas. Elle va demeurer. On ne doit pas l'oublier. On doit la méditer. Elle va travailler en nous et produire ses fruits. Donc, n'avortons pas cette croissance en oubliant. N'avortons pas cette croissance, la parole de Dieu en nous, juste en lisant rapidement. On doit vraiment méditer sur cela. Donc, pour conclure, bien-aimés, quel est le chemin de la réussite? Quel est le chemin pour vivre une vie réussite? Quel est ce chemin? Ce sont pas les livres du monde. C'est à travers Dieu. Une manière pour engager Dieu bien-aimé, c'est par sa parole. Donc, s'il y a des idées qu'on cherche, s'il y a des directions qu'on cherche, s'il y a des comment faire ici, c'est comment. Lisons ce que Dieu a dit par rapport à cela. Cherchons le passage que Dieu a dit par rapport à cela. Lisons ce passage. Ça me rappelle, cette année passée, je suis passé. J'étais vraiment dérangé parce que je cherchais vraiment à évangéliser, mais je ne voyais pas le résultat que je voulais faire. Là, j'ai décidé de voir, aller à la parole de Dieu pour voir en fait ce que les gens faisaient avant, à l'époque. Comment Paul faisait, comment Philippe faisait. Juste en passant le temps dans ces livres, le Seigneur m'a inspiré avec certaines stratégies. Et ce qu'il a fait l'année passée par rapport à cela, je rends juste gloire à Dieu pour cela. J'aurais pu prendre les choses du monde, mais en repartant dans la parole. Ça me rappelle même par rapport à la guérison. Il y a des témoignages. C'est une personne qui va juste lire des chapitres, lire des versets qui sont reliés à la guérison. Méditer sur cela pour opérer dans cette dimension. Ou bien dans les miracles. Lire les versets qui sont reliés au miracle. Méditer à cela pour opérer dans cette dimension. Donc, c'est dans la parole, ce qu'on cherche pour réussir, pas selon le monde, pas selon nos amis, mais selon Dieu. C'est ce que lui, il a dit, pas ce que le monde a dit. Donc, pour terminer, bien-aimé, on va avoir des versets. On va méditer sur les versets cette année. Donc, chaque mois, on aura des versets du mois sur lesquels on va méditer. Donc, d'ici la fin de l'année, par la grâce de Dieu, on aura 10 versets dont on va méditer. Et en pour ce mois de mars, on va méditer sur Josué 1:8, la parole de Dieu. La parole de Jésus, ça va nous rappeler en fait que cette parole doit être dans nous, dans notre bouche, tout le temps. Ce n'est pas par jour, ce n'est pas un verset par jour, ce n'est pas un verset par semaine, non, c'est un verset par mois. Et Jésus 1 lui dit ceci, que ce livre, la loi, n'est seulement point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, c'est pratique. On va pratiquer cela pour que cette parole soit engrainée en nous et pour que nous voyons les fruits de cela qui nous conduit dans une vie réussie selon le Seigneur. Et voilà ce message dans le nom de Jésus-Christ. Amen.